sur Europe 1 jusqu'à 13h30. C'est le grand direct de l'info avec Jean-Marc Morandini.
Dans un instant sur Europe 1, nous irons à Nantes et à Clermont-Ferrand pour connaître l'actualité dans vos régions. Et puis ensuite, ce sera la libre antenne. Le président de la République, vous le savez, a confirmé hier soir que les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale suite à un accident de travail seront désormais imposées. Qu'en pensez-vous? Est-ce une mesure de justice, comme le dit le gouvernement, ou alors vous avez le sentiment que c'est un peu une triple peine, comme le dénonce le Parti Socialiste? On attend votre avis au 39-21, et puis à partir de 13h05, débat ici même dans ce studio entre deux journalistes, l'un qui a apprécié l'intervention de Nicolas Sarkozy hier, et l'autre qui n'a pas apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire, tout ça c'est dans un instant. Vous restez avec nous, c'est Europe 1, à tout de suite.
Europe 1. Et dans le grand direct de l'info sur Europe 1, place maintenant au grand direct des régions, Jean-Marc Morandini.
Et vous savez, nous partons chaque jour à votre rencontre pour être plus proche de vous et de votre actualité. Aujourd'hui, direction Nantes, tout d'abord avec François Coulon. Bonjour François.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ce midi?
Eh bien, c'est un projet complètement fou, celui d'un enseignant catholique breton, Philippe Abjean. Il veut créer une vallée des saints à Carnoët, dans les Côtes d'Armor. L'objectif, c'est de sculpter 1000 statues phénoménales en granit, des pièces de 3 mètres de haut, représentant une grande partie des saints fondateurs de la Bretagne. Ils n'ont pas tous été canonisés par Rome. La plupart étaient des moines itinérants originaires de Cornouailles et du Pays de Galles. Ils ont christianisé la région entre le 5e et le 6e siècle.
Et est-ce que ces premiers saints ont déjà vu le jour?
Oui, 7 statues taillées au burin dans des blocs de granit très anciens, entre 300 et 500 millions d'années. 7 premières statues donc ont pris forme cet été à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère. Chaque œuvre a été sponsorisée par un mécène à hauteur de 10 000 euros. Le financement de 50 autres colosses étant d'ores et déjà assuré grâce à l'engagement de plusieurs entreprises locales. Disons que c'est un bon début, mais il ne va pas falloir manquer de souffle. Le projet pharaonique devrait s'étaler sur une vingtaine d'années à raison de 40 sculptures par an. L'accueil du public commencera en mai 2010.
Et on imagine que ce sera une énorme exposition, hein, François.
Écoutez, ça va être une sorte d'île de Pâques bretonne, mais aussi pour Philippe Abjean, qui est un chrétien pratiquant, pas question d'en faire un lieu mort. Ça doit être avant tout un espace spirituel, un peu comme Thésée ou Parelmonial. Lui parle de Carnac du 3e millénaire. Et puis, la dimension culturelle sera bien présente également avec la reconstitution d'un monastère celtique et tout un centre d'information et d'interprétation sur le haut Moyen-Âge breton.
Merci beaucoup François Coulon en direct de Nantes pour Europe 1. On part tout de suite à Clermont-Ferrand où l'on rejoint Stéphane Barnouin. Bonjour Stéphane.
Bonjour Jean-Marc.
Quelle est l'actualité ce midi dans votre région?
Eh bien, ce qui fait l'actualité ici, c'est l'impressionnante zone de turbulence que traverse en ce moment l'aéroport de Clermont-Ferrand. Pas un jour ou presque sans que la presse locale évoque le sujet. Il faut dire que les chiffres sont assez édifiants. En 2002, Clermont était le 10e aéroport français avec plus d'un million de passagers. On en prévoit à peine 300 000 pour 2009. La fréquentation a donc quasiment été divisée par 4 en seulement 7 ans. Alors plusieurs raisons pour expliquer cet effondrement. La crise d'abord. La clientèle de l'aéroport ici, c'est surtout une clientèle d'affaires et dans un contexte où les entreprises font des économies, optent souvent pour la voiture ou le train plutôt que l'avion, eh bien ça ne pardonne pas. Résultat, moins 30% de passagers sur ces 12 derniers mois, c'est énorme. L'autre grande explication, c'est la politique commerciale d'Air France et de sa filiale Regional Airlines. Au début des années 2000, Clermont, avec sa position géographique centrale, était un hub, une plateforme par laquelle transitaient chaque jour des dizaines de vols intérieurs. Eh bien, ce n'est plus le cas. Les fermetures de lignes ont même tendance à se multiplier. Après Genève, Bordeaux, Milan, Nancy et Montpellier l'an dernier, Air France vient d'annoncer la suppression d'ici un mois des vols sur Nice, Toulouse, Strasbourg et Lille. Là, l'effet est tout simplement mécanique et implacable. Moins d'avions, c'est forcément moins de passagers.
Et avec un tel effondrement, on se doute qu'il y a forcément de réelles inquiétudes au niveau de l'emploi.
Oui, forcément, même si rien n'est confirmé pour l'instant, les syndicats craignent entre 40 et 50 licenciements sur les 135 salariés de l'aéroport. Plus largement, c'est tout un pan de l'économie locale qui est carrément menacé entre les sous-traitants, les sites de maintenance et les ateliers industriels. L'aéronautique fait travailler environ 2000 personnes à Clermont-Ferrand. Si l'aéroport continue comme cela à perdre de l'altitude, beaucoup ici craignent à terme le scénario angoissant forcément d'un crash collectif.
Merci beaucoup Stéphane Barnouin pour Europe 1 donc, qui était en direct pour nous de Clermont-Ferrand. Dans un instant sur Europe 1, la libre antenne, c'est vous qui allez vous exprimer et réagir aux propos du président de la République hier soir qui a donc confirmé que les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale suite à un accident de travail seront sans doute désormais imposées. Qu'en pensez-vous? 39-21 au standard d'Europe. A tout de suite.
Europe 1, le grand direct de l'info. Europe 1. Et c'est maintenant la libre antenne dans le grand direct de l'info et on s'intéresse aujourd'hui à la fiscalisation des indemnités journalières confirmée hier soir par Nicolas Sarkozy. Que pensez-vous de cette mesure? Jean-Marc Morandini attend toutes vos réactions au Standard Europe 1, c'est le 39-21.
Oui, c'est une mesure qui fait beaucoup parler, hein, effectivement. L'objectif, c'est de combler bien sûr le déficit de l'assurance maladie qui doit dépasser les 10 milliards d'euros cette année, pourrait même atteindre les 15 milliards d'euros en 2010. Alors du coup, avec cette mesure qui consisterait à taxer les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, eh bien, cette mesure pourrait reporter 150 millions à 200 millions d'euros. On va dire que c'est déjà ça de prix. Bonjour Bernadette.
Oui, bonjour Jean-Marc.
Vous êtes plutôt pour, hein?
Tout à fait.
Pourquoi?
Je suis pour la bonne raison que j'ai géré pendant 8 ans les arrêts maladie et accidents du travail dans une société qui comptait environ 1000 personnes. Et que au fil des années, il y avait une recrudescence d'accidents du travail qui était très très importante, sur lequel j'ai travaillé. Il s'est avéré que dans les accidents du travail, il y a les vrais accidents du travail, des salariés qui sont blessés dans le cadre d'un accident du travail, ça c'est vrai, mais des salariés qui ont compris le filon et qui font passer dans le cadre d'un accident du travail souvent un accident qu'ils ont eu à leur domicile la veille ou dans le cadre d'un sport qu'ils pratiquaient.
Oui, mais du coup, en même temps, cette mesure va pénaliser tous, oui, même ceux qui sont...
C'est très dommage, parce que ce qui se passe, c'est qu'une personne qui est en arrêt maladie aura 3 jours de carence, sera indemnisée environ à 50%, les indemnités journalières de sécurité sociale pour la maladie sont imposables, et en plus, ces personnes sont souvent contrôlées, puisque les arrêts maladie sont quand même contrôlés.
Et c'est pas le cas pour les accidents du travail.
Alors que pour une personne qui se blesse dans le cadre d'un accident du travail, le premier jour de travail est indemnisé totalement par l'employeur.
Oui, je comprends.
L'indemnité est très importante, on perd quasiment pas grand-chose, c'est non imposable, et il n'y a pas ou peu de contrôle. Nous avions des contrôles parce que à force, nous avons fait des actions auprès des différentes CPAM, puisque nous avions 10 agences dans toute la France, et c'est vrai qu'on faisait contrôler et on en était à un point où on était obligé de contester des accidents du travail.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'on savait que l'accident était faux. On était souvent des fois même alertés par nos propres salariés.
Merci Bernadette. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bernadette donc qui est pour cette fiscalisation. On va prendre Thierry. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Strasbourg. Et vous, vous au contraire, ça vous scandalise cette idée?
Je suis scandalisé parce que une fois de plus, ça va être encore donc les employés, les salariés qui vont être sanctionnés, alors que les accidents du travail, certes, il y a de l'abus comme dans tout. L'auditrice d'avant l'a bien signalé, mais il y a aussi un manque de plus en plus grandissant de sécurité dans les entreprises, parce que les entreprises aujourd'hui, pour pouvoir vivre, sont obligés de couper les comptes un petit peu partout, et donc il y a un manque de sécurité dans les différentes corporations, les différentes entreprises. Alors c'est bête parce que justement, comme le disait l'auditrice juste avant, s'il y avait peut-être un petit peu plus de contrôle, je pense qu'il y a des choses à faire, oui, comme par exemple avoir un petit peu plus de contrôle et de sanctionner les employeurs qui ne mettent pas en place la sécurité nécessaire dans les entreprises, et de faire la part des choses.
Thierry, vous pensez quoi de l'explication que donnait Nicolas Sarkozy hier soir? Il disait, lorsque vous travaillez, vous avez un salaire, vous payez un impôt. Lorsque vous êtes arrêté, vous avez une indemnité qui compense le salaire. Mais là, c'est exonéré d'impôt. Donc, il dit, c'est pas logique.
Je suis contre. Je trouve ça intolérable et inadmissible. Moi, si demain j'ai un accident du travail, je le fais pas exprès. Moi, j'aime mon boulot, je fais mon boulot tous les matins et je suis dans le transport. Si demain je suis agressé ou quoi que ce soit, moi, j'ai pas demandé à être agressé. J'ai pas demandé à subir.
C'est une compensation en fait pour ce que vous subissez. C'est ce que vous voulez dire. Merci beaucoup, Thierry. Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous dites, c'est normal que le gouvernement cherche de l'argent, mais c'est peut-être pas au bon endroit.
Si le gouvernement veut chercher de l'argent à droite à gauche, il devrait d'abord donner un signe de solidarité nationale et commencer par mettre en veilleuse pendant 2 ou 3 ans le bouclier fiscal. Ça rendrait beaucoup plus acceptable toutes les petites mesures qu'il essaye de trouver en grattant par-ci par-là pour trouver de l'argent.
Et celle-là de mesure vous paraît inacceptable ?
Pardon ?
Celle-là de mesure vous paraît inacceptable ?
On peut discuter à perte de vue sur celle-là, il y en a d'autres, etc. Je rentrerai pas dans la discussion individuelle de chaque mesure. Je dis qu'il faut donner un un signal de solidarité nationale. On a des problèmes financiers. Commençons par supprimer pendant 2 ou 3 ans le bouclier fiscal. Après, les différentes mesures passeront beaucoup mieux auprès de l'opinion publique.
Merci beaucoup, Robert. On va prendre Marc qui nous appelle de Cambrai. Bonjour, Marc.
Oui, bonjour. Simplement, je veux acquiescer ce que disait Bernadette tout à l'heure concernant les arrêts de travail suite aux accidents. Et je pense que un revenu qui est une, cette indemnité qui est un revenu du travail doit, comme tous les autres revenus du travail, être imposé également. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise idée.
Merci Marc. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
On vous écoute Jean-Paul, allez-y.
Bah écoutez, bon, vous savez, moi je vous dirais franchement, Monsieur Sarkozy, je l'ai regardé hier soir. Bon, parce que je voulais voir un peu sa façon, sa stratégie un peu comédienne, parce que c'est un artiste, hein, quelque part. Il a l'art d'endormir les gens. Mais malheureusement, en endormant les gens, il prend des mesures un peu malheureuses. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, vous savez, il faut pas se voiler la face. Il n'y a plus d'argent. On vous dit qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il y en a de l'argent, hein. Mais on ne tape pas là où il faut. Alors moi, je suis pas d'accord sur les mesures. Hein, dès que le forfait hospitalier, sachant même qu'on a précisé que c'était la gauche qui l'avait mis en place, c'est vrai. Mais ça n'a pas déplu à la droite de le continuer, et voire même de l'augmenter. Hein? Alors, moi j'ai dit que les mesures aujourd'hui, on s'en va dans un système comme dans le temps où les États-Unis n'avaient pas de couverture sociale. On est en train aujourd'hui de faire l'envers, travailler à l'inverse, et puis un beau jour, les gens, quand ils n'auront plus d'argent, vous savez, il n'y aura que ceux qui auront de l'argent qui pourront soigner, il n'y aura que ces gens-là qui pourront essayer de se faire une retraite, et puis les autres, malheureusement, ils n'auront plus qu'à mourir de faim, et puis de se mettre à pleurer et de se lamenter. Donc je dis qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être un peu réagir, mais un peu trop tard, hein, parce qu'il y a longtemps qu'on aurait dû réagir. Et eux, c'est la couverture facile. On applique, et on tape pas toujours là où il faut, c'est ce que votre prédécesseur disait, on tape pas là où il faut, il y a de l'argent, il y a des abus quelque part. Alors bien sûr, moi je l'écoute IA, il fait des pirouettes, et puis des propos, des fois, c'est horrible d'entendre ça, mais il est tellement comédien, il abuse les gens, bon. Mais ça fonctionne.
Merci Jean-Paul, merci de vous être exprimé sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour. Écoutez, moi je reprendrai un petit peu ce que l'ensemble des personnes ont dit, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il est logique que l'on paye des impôts sur une indemnité qui revient à être un revenu, puisque quand ils ne travaillent pas, ils n'ont pas leur revenu, il est remplacé par une indemnité, il est normal de payer des impôts là-dessus. Il faut qu'on arrête de toujours vouloir croire que l'État est là pour subvenir aux besoins de tout le monde. L'État, il est là pour gérer un État et essayer de faire en sorte qu'on ne manque de rien au niveau de la sécurité, au niveau de... Je crois qu'on est un des pays les plus gâtés au niveau social, malgré tout.
Oui, mais vous entendiez l'auditeur tout à l'heure qui disait, en même temps, quand on a un accident, on le cherche pas, ça devient un handicap, donc il y a peut-être justement cette indemnité qui peut compenser.
Mais oui, mais justement, l'indemnité, elle vient pour compenser le revenu qu'ils n'ont pas pendant qu'ils ne travaillent pas. Mmh. Et s'ils ne reçoivent que 50% d'indemnité, mais ils ont un revenu moins important, ils seront moins imposés dessus. Parce que finalement, si on fait le total de ce qu'ils vont avoir comme imposition sur leur indemnité par rapport à ce qu'ils auraient eu s'ils avaient eu leur revenu, mais on parle de quoi? On parle de rien du tout.
Merci Philippe, merci à tous de vous être exprimés sur ce sujet. 39-21, dans un instant, après le journal de 13h, nous reviendrons sur l'intervention télévisée hier soir depuis New York de Nicolas Sarkozy, avec face à face dans ce studio Anthony Bélanger, chef des informations à Courrier International, et Éric Brunet, journaliste, pour dialoguer et pour affronter les idées concernant ce qu'il faut penser de cette intervention du président de la République.
Merci d'écouter Europe 1, il est tout juste 13h. Et le grand direct de l'info se poursuit avec Jean-Marc Morandini.
Dans un instant, face à face sur Europe 1, face à face entre Anthony Bélanger, chef des informations à Courrier International, et Éric Brunet, journaliste, pour commenter l'intervention hier de Nicolas Sarkozy. Vous a-t-il convaincu? À tout de suite.
Le grand direct de l'info sur Europe 1. Europe 1.
Et c'est maintenant le grand chat dans le grand direct de l'info. Et pour revenir sur l'intervention télévisée hier soir de Nicolas Sarkozy, nous recevons aujourd'hui Anthony Bélanger, les chefs des informations à Courrier International, et Éric Brunet, les journalistes à France Télévisions, et attend aussi toutes vos réactions au 39-21. Jean-Marc Morandini.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Alors tout d'abord, on va faire un avis global sur l'intervention de Nicolas Sarkozy. Ensuite, on rentrera dans le détail, en particulier de tout ce qui fait polémique aujourd'hui. Éric Brunet, convaincu et satisfait par l'intervention de Nicolas Sarkozy hier à New York? York.
Oui, il n'avait pas parlé depuis avril, donc ce super président qu'on dit super communicant, il n'avait pas, dans ce type d'exercice, pris la parole.
Il n'avait pas parlé dans ce type d'exercice, il a beaucoup fait de discours. Quand même,
alors, je l'ai trouvé éminemment pédagogue, je l'ai trouvé transparent, j'ai compris un certain nombre de choses que j'avais eu du mal à comprendre avant, notamment sur, sur son véritable projet dans la nouvelle gouvernance mondiale de ce capitalisme qu'il essaie de réformer. Je l'ai trouvé, honnêtement, remarquable, et il y avait un peu de lyrisme, mais moi j'aime bien, je suis comme ça,
comme
moi on peut
mignon.
M'avoir à l'émotion, et je l'ai trouvé même un peu lyrique. On parle beaucoup d'Obama qui dans le discours va changer la donne mondiale, et bien j'ai trouvé qu'il y avait du Obama chez ce Sarkozy là.
Alors Anthony Bélanger,
comme c'est adorable d'avoir trouvé, écoutez, tant de béatitude me confond. Non, moi j'ai plutôt trouvé que sur des points précis, notamment on avait rien discuté sur l'histoire de l'indemnisation là, vous savez, apporté sur, j'ai trouvé ça pitoyable. J'ai trouvé que sur l'Iran, il était particulièrement dangereux, y compris pour l'avenir de Clotilde Reiss, tout de même. On pourrait y revenir. Effectivement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il maîtrise ses dossiers, heureusement. Il est président de la République depuis 2 ans, et enfin, peut-être, on a affaire effectivement à quelqu'un qui maîtrise ses dossiers. Bon, par ailleurs, sur la taxe carbone, il a eu raison de s'expliquer, parce que ça lui a coûté cher dans les sondages, et on voit bien qu'il essaye, par des espèces de coups politiques, notamment avec cette histoire d'indemnisation, qui est, à mon avis, parfaitement scandaleuse, de récupérer un peu la main.
Alors, on va faire ça dans le détail, si vous voulez bien. On va commencer avec la fiscalisation des indemnités journalières. Mm-hmm. En cas d'accident, on en parle avec nos auditeurs, qui étaient plutôt partagés, d'ailleurs. Il n'y a pas de vraie ligne directrice qui s'est dégagée là-dessus. Pour vous, Éric Brunet, est-ce qu'on a raison de taxer ces indemnités journalières en cas d'accident ?
Ben, moi, je trouve qu'il a été très clair. Franchement, je souhaite pas polémiquer là-dessus. Je trouve que c'est limpide et lucide. Mais oui, il a raison.
Non, il a tort.
Mais pourquoi ?
Il a tort simplement parce que c'est un micro-problème, d'une part, et on n'a pas à en faire un débat national quand on sait que ça va rapporter 150 millions à l'État. Je rappelle tout de même qu'encore une fois, le bouclier fiscal a coûté 15 milliards à l'État, c'est-à-dire 100 fois plus. Autrement dit, on est encore en train de faire la même chose que d'habitude, c'est-à-dire de prendre un micro-problème, et en l'occurrence là, de taper sur les pauvres. Il s'agit de ça, et de rien d'autre, puisque je vous rappelle quand même que les gens qui ont des accidents du travail, c'est grosso modo les gens qui tombent des échelles ou qui ont un travail manuel, donc c'est les pauvres.
Non, un accident du travail.
C'est extraordinaire, c'est un résumé. 25 minutes, alors que je vous rappelle que le pays est en crise, qu'il va y avoir 40 000 chômeurs de plus, qu'on a donné 15 milliards, de recettes fiscales dont on aurait bien besoin aujourd'hui à des gens qui ne sont jamais revenus de Suisse. Je le rappelle tout de même. C'est objectif. Faire revenir des exilés fiscaux, notamment Johnny Hallyday, de Suisse, est-il revenu ?
Éric Brunet.
Quand arrêterez-vous de sortir cet exemple caricatural du bouclier fiscal ? D'abord, vous l'avez résumé, caricaturé, réduit. Le bouclier fiscal, on en mesure aujourd'hui les bénéfices sur le plan de l'emploi, du travail et de l'argent pour la République. Donc arrêtez de dire qu'il a été inutile.
L'emploi, c'est 10% de chômeurs dans ce pays.
C'est faux. C'est
ensuite,
faux. Le
ça
bouclier
n'a pas fait
fiscal.
Revenir un seul.
Attendez, on laisse répondre, Éric Brunet.
Mais qui êtes-vous pour dire qu'il n'y a pas une seule personne qui est rentrée en France depuis le bouclier fiscal ?
Par exemple, les
auditeurs de vous. Pas, mais moi, je peux attester que vous êtes en train de sourire. Vous savez très bien qu'il a été utile, ce bouclier fiscal.
Il a dit lui-même, qui a expliqué devant les Français, enfin, on peut retrouver ses déclarations, que ça avait peut-être empêché des personnes de partir de France. Je me demande comment il calcule ce genre de choses. Mais personne n'est revenu, d'ailleurs. On le voit bien, puisqu'il est obligé, non pas de faire des amnisties fiscales, mais d'ouvrir des comptoirs à Bercy pour expliquer aux gens que s'ils veulent revenir, allez, va.
Mais
on leur fera pas trop de mal.
En tout cas, là, vous êtes reparti sur le bouclier fiscal. Ma question concernait la fiscalisation des indemnités journalières en cas d'accident. Tous les revenus sont fiscalisé.
Je pense que c'est très bien de parler de choses sérieuses et pas de 150 millions et pas d'un débat qui touche essentiellement des personnes qui sont effectivement invalides, qui ont eu un accident du travail et qui ont peut-être besoin qu'on les soutienne autrement qu'en les imposant une fois de plus.
Attendez. Bon. Tous les revenus doivent être fiscalisés, y compris ceux-là. Et je trouve que vous y allez encore une fois un peu fort dans la caricature quand vous dites que les accidents du travail, c'est les pauvres. Bon, attends, moi je suis pas spécialement pauvre ni spécialement riche. Il m'est arrivé d'avoir un accident du travail. Vous pouvez pas dire que ça n'affecte que les catégories les plus modestes de la population. C'est encore une fois un de ces raccourcis dont vous êtes le spécialiste.
Non, pas du tout. Il suffit de regarder les chiffres.
Arrêtez d'engager des débats à coup de slogans comme ça.
Écoutez,
parlons raisonnablement.
J'ai fait mon travail de journaliste qui consiste à aller voir les chiffres, et bien l'essentiel des accidents du travail concerne des employés ou des ouvriers. C'est pas l'essentiel, c'est de 80 à 85%. Donc soyons clairs, ça concerne des ouvriers, des employés.
Ça concerne déjà des gens qui travaillent.
Ça concerne des gens qui travaillent. Ouais. D'ailleurs, on peut avoir signé un accident du travail quand vous êtes au chômage. On peut tout à fait avoir un problème de ce genre. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, encore une fois, on lance un débat dans la population alors qu'il y a des choses beaucoup
alors,
plus graves.
Alors, autre sujet, l'augmentation du forfait hospitalier, confirmée par Nicolas Sarkozy, c'était une hypothèse. C'est devenu aujourd'hui une certitude. Ça, Anthony Bélanger, de toute façon, on est obligé de passer par là, non?
Oui, alors là, pour le coup, je pense que oui, effectivement, je pense que l'augmentation du forfait hospitalier est une, on va dire pas une obligation, mais enfin, c'est aussi un moyen pour chacun d'entre nous de participer à ses propres coûts du soin. Là, pour le coup, je vois pas de polémique dans l'histoire.
Très bien. Alors, vous êtes d'accord?
Oui, mais j'aimerais juste dire que l'hôpital, c'est un dossier auquel le président va devoir s'attaquer, et je pense que l'augmentation du forfait hospitalier, ça va pas résoudre tous les problèmes.
Ça, c'est certain.
On est bien d'accord.
La taxe carbone.
Je tiens tout de même à signaler que le trou de la sécu dont on parle depuis des années est absolument ridicule. Vous savez, quand on nous dit que le trou de la sécu est énorme et qu'il va falloir le combler, je rappelle que la sécurité sociale ne peut pas s'endetter, donc contrairement à l'État, elle ne peut pas avoir recours aux mêmes possibilités. Deuxièmement, que le budget de la sécu est à peu près égal au budget de l'État. Autrement dit, quand on nous parle de 20 milliards de trous de sécu, il faut bien comprendre que l'État, lui, pendant ce temps-là, fait un trou de 140 milliards. Autrement dit, contrairement à ce qu'on pense, la Sécu est extrêmement bien gérée. Elle n'est pas aussi déficitaire qu'on le dit, et simplement elle subit les contre-coups de la crise du fait qu'il y a moins de cotisants et moins de cotisations. Donc on arrête aussi de nous bassiner avec le trou de la Sécu.
Ce que vous venez de dire est parfaitement faux. Hein. Je veux bien qu'on en entame un débat là-dessus. Mais
on va pas entamer un débat là-dessus. On va passer à la taxe carbone, si vous voulez bien.
Pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. C'est honteux. Les hôpitaux publics refusent de s'auto-évaluer. Sont dans l'inefficience totale. Ils ont été utilisés comme des outils sociaux par les élus qui font embaucher les petits copains, etc. Il faut réformer l'hôpital. Moi, je pense que les 20 milliards de déficit de la sécurité sociale, contrairement à vous, c'est dramatique. Eh bien, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même position sur le sujet.
Alors, la taxe carbone, Michel Sapin, secrétaire national du Parti Socialiste, disait c'est une mauvaise nouvelle, celle d'une mauvaise taxe carbone, d'un nouvel impôt qui pervertit une belle idée, Éric Brunet.
J'en ai marre de ces politiciens qui, de façon systématique, contestent ce qui est fait dans le camp adverse. Pourquoi est-ce que des élus de gauche ou des élus écologistes n'auraient pas l'honnêteté de dire « Ma foi, il a fait quelque chose d'assez courageux. C'est même assez rare qu'un président de droite soit aussi impactant sur des sujets comme ceux de l'environnement. Et pourquoi est-ce que Michel Sapin, pourquoi est-ce que des élus verts ne disent pas « Bravo, Sarko, là, il aurait mérité des applaudissements. » Parce qu'il s'est mis un certain nombre de personnes, y compris de sa propre majorité, vous le savez, à dos. Moi, je trouve que là, comme sur les grands sujets qu'on va aborder un peu plus tard, sur la gouvernance capitalistique mondiale, je trouve que là, il a beaucoup d'avance, le président.
Anthony Bélanger.
Il a absolument raison. Vous avez tout à fait raison. Je pense effectivement aussi que là, pour le coup, Nicolas Sarkozy a fait preuve de courage, que ça lui a coûté des points dans les sondages. C'est pas une raison d'ailleurs pour sortir des débats inutiles du genre de ce dont on vient d'aborder, c'est-à-dire essayer de récupérer à droite ce qu'il a perdu dans l'ensemble de la population en fiscalisant je ne sais quoi pour une somme ridicule. Mais pour le coup, effectivement, il a raison. Je pense que on peut pas demander tout de même au vert de venir, vous savez, comme à Canossa et de se mettre à genoux devant le président de la République parce qu'il a adopté une taxe de 17 euros par tonne de carbone. Non. D'abord parce qu'ils espéraient plus ou probablement différemment. Ils ont des arguments pour ça. Mais par contre, effectivement, il y a de la mauvaise politique à faire en ne soulignant pas le courage dont il a fait preuve.
Je serais directeur de la com d'un parti de gauche. Moi, je dirais à mes leaders politiques, je dirais, ça serait pas mal que là tu dises que Sarkozy était bien. Je pense qu'il faut changer les comportements politiques.
Rapidement, avant de parler de l'Iran, un mot sur le secret bancaire, puisqu'il n'y a plus de paradis fiscaux ni de secret bancaire, a affirmé le président.
Il n'y a plus de paradis fiscaux.
Anthony Bélanger.
Oui, d'abord, nous, on en a trois, je vous signale. On a la Suisse, on a Andorre et on a le Liechtenstein. Et Monaco. C'est une vraie bêtise. C'est pas vrai. On a éventuellement la possibilité, si on les nomme et si on est sûr que s'il y a bien une action judiciaire, de pouvoir envoyer aux Suisses le nom de quelqu'un. Et peut-être que dans les 2-3 ans, ils vont nous répondre. C'est grosso modo ce qu'on a obtenu.
C'est faux ce que dit le président.
C'est faux, oui et non. C'est-à-dire, on a obtenu un peu mieux, mais certainement pas la levée du secret bancaire. D'ailleurs, il suffit de lire la presse suisse pour savoir que non seulement les Suisses sont vent debout contre l'idée de pouvoir abattre le secret bancaire, mais qu'ensuite ils sont très contents de ce qu'ils ont obtenu. lisez la presse suisse. Ils sont très contents. Ils disent, bon, ben,
Eric Brunet, un mot.
Mais je suis inquiet. J'ai l'impression qu'on lit pas les mêmes journaux, vous et moi. Moi, j'allais dire rigoureusement le contraire.
Ça, je vous confirme qu'à mon avis, vous lisez pas les mêmes.
Non, on lit pas les mêmes journaux. Moi, je vois toutes les semaines que depuis cette décision qui a été initiée, et vous parliez de la Suisse, notamment en Suisse, je vois des verrous qui sautent. On a des listes de contribuables français qui ont des comptes en Suisse. Ben, maintenant, on les a. Bercy les a. Donc, concrètement, pour répondre à votre question, monsieur Morandini, oui, les choses ont changé depuis ce fameux G20 et la transparence s'installe. Non, alors... Il y a encore des paradis fiscaux, mais la transparence s'installe et finalement, ils ont été sacrément efficaces parce que ce G20, c'était pas il y a 20 ans.
Non, c'est pas été si efficace. Il y a plein de paradis fiscaux d'abord qui échappent totalement à l'OCDE, la fameuse liste dont vous faisiez, auquel vous faisiez allusion. Je pense à Singapour, je pense à Taïwan. Ensuite, il y a beaucoup de onshore, c'est-à-dire de paradis fiscaux qui sont au sein même, par exemple, la City. Hein, il suffit simplement de traverser la Manche pour aller mettre son argent à peu près à l'abri. Ensuite, non, ça n'a pas été si efficace puisque au fond même les Britanniques ou les Américains sont revenus sur le sujet. Il suffit encore une fois de lire effectivement, nous ne lisons pas les mêmes journaux, les journaux suisses, pour savoir qu'ils sont bien tranquilles sur le sujet.
On passe à l'affaire Clearstream avec ce petit mot prononcé par Nicolas Sarkozy qui fait beaucoup parler, ce mot de coupable. À l'instant, le secrétaire général de l'UMP Xavier Bertrand estime qu'il n'y a pas de problème dans l'utilisation coupable, puisque Nicolas Sarkozy n'a pas cité de nom.
Il ne manquerait plus que ça en plus. Je vous signale qu'il est quand même garant de l'institution judiciaire. Et que quand on se passe devant un tribunal, on est
présumé innocent. Mais c'est pas un lapsus simplement? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire beaucoup autour d'un lapsus?
Non. Cet homme est un avocat, il est président de la République, il fait un lapsus. Quand il fait un lapsus, et d'ailleurs ce n'est pas un lapsus, quand il parle de coupable, il désigne des coupables, et quand il parle de coupable traduit devant des tribunaux, il fait non seulement une erreur, mais il trahit ou traduit ce qu'il pense. Ce qu'il pense, c'est qu'il veut traîner dans la boue jusqu'à
la vengeance.
Oui, bien sûr.
Éric Brunet, là-dessus.
Oh là là. Franchement, là, soudainement, je trouve que c'est encore un faux procès. Il a traduit sa pensée, effectivement. Alors, du point de vue juridique, stricto sensu, il n'aurait pas dû utiliser ce mot coupable. Peut-être, j'en sais rien.
Il doit s'excuser ou pas? Il doit s'excuser?
Non, il ne doit pas s'excuser. Enfin, franchement, attendez, nous, on est journalistes. Tous les jours, des milliers de journalistes trahissent le principe de la présomption d'innocence tous les jours. Et là, soudainement, ces mêmes journalistes qui sans arrêt, encore une fois, trahissent le principe de la présomption d'innocence. Ces mêmes journalistes-là arrivent moralistes et disent, oh là là, monsieur le président, excusez-moi, vous avez utilisé à mauvais escient le mot coupable.
Je juge l'intention.
Il faut arrêter d'expliquer à la France entière que Nicolas Sarkozy est dans un esprit vengeur, que c'est le vengeur masqué et qu'il ne respirera que lorsque l'ancien Premier ministre sera derrière les verrous. Faux. Il s'est très peu exprimé. Alors,
ce n'est pas vrai.
Il s'exprime très peu sur cette affaire.
Qui sont là pour lui rapporter les propos de ce qui se passe dans ce procès. Il le suit heure par
que le justiciable.
Et deuxièmement,
Sarkozy soit.
Attendez, un mot d'Anthony Bélanger, parce qu'on termine.
Oui, et deuxièmement, il est le garant de l'institution judiciaire, il n'a pas à s'exprimer de cette manière, d'une part, et d'autre part, ce n'est pas vrai. Notamment, j'étais un des seuls journalistes à dire, probablement à dire, que par exemple, dans l'affaire Julien Drey, je trouvais scandaleux que les attendus du procès se retrouvent immédiatement dans le Parisien et les autres journaux. Donc non.
Mais vous êtes exemplaire sur le plan déontologique.
Allez, merci. Merci Anthony Bélanger, chef des informations en Courrier International. Merci Éric Brunet, journaliste. Également, merci d'avoir débattu en direct sur Europe 1. Votre grand direct continue. A tout de suite.
Europe 1.
Et c'est maintenant votre grand direct dans le grand direct de l'info avec aujourd'hui Isabelle Quenin pour la consommation et Roland Pérez avocat qui arrive avec son sac.
Il signe des autographes et c'est une star.
Mais qu'est-ce que vous racontez?
Roland Pérez est une star. Voilà.
Il est venu
avec son public en plus.
C'est vos parents.
Allez, bonjour à tous les deux, en tout cas Isabelle et Roland. Bonjour. On va commencer avec vous, Roland, puisque le public est venu pour vous. Vous avez votre public.
Exactement.
Vous allez nous parler de la fraude à la carte bancaire et quels sont vos droits.
Alors,
vos droits.
En fait, vous avez trois. Il en perd son latin. Alors, vous avez trois situations qui peuvent effectivement vous arriver. La première situation, qui est la plus ennuyeuse, c'est que vous êtes toujours en possession de votre carte physiquement et vous vous apercevez sur votre relevé bancaire ou si vous consultez sur Internet vos relevés, vous vous apercevez qu'en réalité, des dépenses ont été faites et vous n'êtes pas à l'origine de ces dépenses. Là, vous vous inquiétez, vous vous dites, mais quelqu'un a utilisé par correspondance ou à distance, en tout cas, ma carte bancaire, comment est-ce possible? Donc, de toute façon, il faut immédiatement, alors vous avez un délai, on le verra, mais immédiatement, vous devez alerter votre banque en disant, je n'ai pas effectué cette dépense, soit parce qu'on a contrefait votre carte, aujourd'hui, c'est reconnu dans le code de monétaire et financier, Avant, on vous disait que les contrefaçons de cartes bancaires, c'était pas possible. Aujourd'hui, on le reconnaît, les contrefaçons peuvent intervenir. Donc, et c'est prévu par le Code monétaire et financier. Donc, vous intervenez auprès de votre banque et vous demandez immédiatement à ce qu'on vous recrédite le montant des sommes contestées. Ils ont un délai d'un mois, la banque a un délai d'un mois pour vous recréditer les sommes. Donc, c'est important de le savoir et il faut vérifier si ces sommes sont recréditées. On va vous demander généralement de déposer plainte, évidemment, parce qu'il semblerait qu'il y ait une infraction pénale à ce sujet, donc vous déposez plainte du fait de utilisation frauduleuse de votre carte bancaire. Vérifiez vraiment vos relevés bancaires, faites-le parce que vous avez un délai de 70 jours, des fois votre contrat prévoit 120 jours, mais c'est au minimum 70 jours. Ensuite, deuxième cas, c'est perte ou vol. On vous a vraiment volé votre sac avec votre carte bancaire ou vous l'avez tout simplement égaré. À partir du moment où vous l'avez égaré, vous ne l'avez plus en possession, il faut immédiatement, évidemment, former opposition, mais pose le problème de savoir si la carte a été utilisé avant opposition, que se passe-t-il ? Théoriquement, dans une limite de 150 euros, ben, vous allez avoir une franchise, vous allez devoir supporter 150 euros, sauf si vous avez une assurance spécifique. Mais a priori, s'il y a des dépenses qui ont été faites en dessous de 150 euros, ben, ça restera malheureusement à votre charge, avant opposition. Et au-delà, en revanche, toutes les sommes au-delà, vous ne devez strictement rien supporter. La troisième situation, c'est que la banque vous dit « Ah oui, mais attendez, le code confidentiel a été utilisé. Pour nous, vous avez commis une négligence. » Il y a une décision récente de la Cour de cassation qui précise que la négligence ne se présume pas, que c'est à la banque de rapporter la preuve que vous aviez laissé, vous étiez en possession de votre code confidentiel et que votre carte a été volée avec votre code confidentiel. C'est quasiment impossible pour la banque de prouver ça, puisque vous n'allez pas venir leur raconter que vous aviez votre code confidentiel. Donc, attention, là encore, comme la banque ne pourra pas rapporter cette preuve et cette négligence grave ne se présume pas, a priori, on devra vous appliquer ces 150 euros de franchise.
Merci voilà. Beaucoup Roland. Et Isabelle Quenin aujourd'hui va nous expliquer comment bien faire sa lessive.
Bah exactement.
C'est pour ça que
l'heure de la lessive a sonné, il faut faire les bons choix. On va commencer tout simplement lessive, d'accord, mais poudre ou liquide ?
Liquide. Sa poudre, c'est parce qu'il fréquente beaucoup de showbiz, Roland, c'est ça.
Et ben, en même temps, il a raison. Que si l'objectif, c'est de laver du vraiment sale, c'est-à-dire des taches de boue, d'herbe, de tomates, de myrtilles, de moutarde, de café ou de thé, on prend de la poudre. Les tests en laboratoire qui ont été réalisés par Que Choisir sont formels. La poudre est beaucoup plus efficace, quelle que soit la température, sur des taches vraiment sales. Si l'objectif, maintenant, c'est de maintenir l'éclat du blanc, on prend quoi ? Liquide ou poudre ?
Bah, liquide, alors. Liquide, forcément.
Là, c'est compliqué, vos histoires. Là.
Jean-Marc, il tutoie pas du tout sa machine.
Pas du tout, non.
Et ben, là aussi, on va continuer avec la poudre, hein, parce que si on veut éviter le côté grise-douille, moche-douille, et ben, c'est la poudre, et ce qui est tout à fait normal, puisqu'elle contient des agents de blanchiment. Alors, ce qui va sauver, bien sûr, les lessives liquides, c'est qu'elles n'en contiennent pas. Et donc, elles sont toutes indiquées pour les couleurs, le rouge vif, le noir. Et d'ailleurs, vous savez que pour tout ce qui est couleur foncée, hein, Julia et moi, on est habillés en noir aujourd'hui, on sait qu'il faut laver les affaires à l'envers.
Exactement.
Pas la tête à l'envers, Jean-Marc.
J'ai bien compris.
C'est gentil. Alors, depuis octobre 2005, les fabricants ont l'obligation d'indiquer de la présence de substances allergènes dans la liste des composants dès lors qu'elles entrent dans la composition pour plus de 100 mg par kilo. Enfin bon, ça c'est sûr que c'est très subjectif parce que quelqu'un peut être allergique beaucoup plus rapidement que quelqu'un d'autre. Méfiez-vous des mentions hypoallergéniques. Seules celles qui ne contiennent aucune substance ont droit à le mettre. Donc, c'est effectivement très très rare. Alors, bien sûr, les fabricants vont jouer sur les mots en vous mettant « tester sous contrôle dermatologique », ce qui ne veut rien dire.
Moi c'est clair.
Aucune garantie. Sachez aussi que c'est pas la peine de faire tourner votre machine à 60 degrés ou à 80 degrés, parce que ça dépense beaucoup d'énergie et ça n'a pas un résultat optimal à 40, parce que toutes les lessives sont formulées pour fonctionner à 40, voire à 30. Et puis surtout, dernier mot, on attend pour faire tourner la machine qu'elle soit pleine.
Ah bah oui, forcément.
Enfin, ça, on dépense.
Merci beaucoup Isabelle Quenin, Roland Pérez. Merci à tous. Dans un instant, Jacques Pradel. Je vous embrasse. Bisous Julia.
Bisous Marc. Et à demain. Thank you.